la mort de mon père, ma mère a vendu une soupière en argent pour acheter une piscine, dit-il. Moi, j'ai acheté une télévision et j'ai mis les enfants devant.
Les enfants de Shadok, ça pompe ou ça n'existe pas.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première. Vertigo. Sur la première.
Le climat de votre roman, Laurence Boissier, tel qu'imaginé par Bruno Seriba qui réalise cette émission. Ce roman, c'est Rentrée des classes, publié chez Art et Fiction. L'histoire de Andrew, Elise, deux enfants, Mathilde et Henri. Andrew a disparu en mer, lui qui fabriquait des voiles en rade de Genève. On est en 1972 à Genève. Donc, Elise travaille au musée de la porcelaine et de l'argenterie en compagnie de son directeur Hubert et de Madame Ponce. Henri lui a décidé qu'il n'allait plus à l'école. Mathilde, elle, est plus petite. Elle va toujours à l'école et elle vit pour partie dans un placard, dans la maison familiale. Et on suit le parcours de tous ces personnages, tous avec une identité très très forte tout au long de ce formidable petit roman. Laurence Boissier, d'où vient cette histoire ?
La trame principale vient de moi. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Et puis après, j'ai écrit autour de ça, j'ai laissé reposer, j'ai pas mal laissé décanter, puis ensuite c'est reparti sur complètement autre chose. Et c'est cette autre chose-là que j'ai gardée. Mais la trame de fond est la bonne.
Vous avez, je le disais, vous participez d'ailleurs toujours au collectif,
oui,
Bern East Überall. Et puis vous êtes l'auteur de Inventaire des lieux, pour lequel vous avez reçu le prix Suisse de littérature en 2017, qui était d'une petite forme. Ce sont des formats courts, Inventaire des lieux, comme une liste de choses, quelque chose d'approchant. Et là, vous passez au roman. Est-ce qu'il vous fallait cette histoire-là, très particulière, pour passer au roman?
Non, pas du tout. J'ai écrit un roman, mais je ne crois pas être passée au roman. J'aimerais essayer d'autres formes littéraires, par exemple la bande dessinée, et là, revenir un petit peu à la performance et aussi raconter simplement des histoires là, en live. Donc je ne suis pas du tout sûre. Peut-être un jour, oui, il y aura un autre roman. Mais je ne suis pas... Non, pas du tout. C'est pas, l'objectif, ce n'était pas de continuer à écrire des romans.
Donc au fond, c'est l'histoire qui détermine la forme que prendra ce que vous allez produire par la suite, que ce soit une performance, un recueil de récits courts.
Mais oui, c'est joli ça, ce que vous dites. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend, ce que j'ai appris aux Beaux-Arts. C'est de voir ce qu'on avait envie de dire, puis ensuite de regarder comment on pouvait y arriver de la meilleure manière.
Alors vous êtes quelqu'un qui observe beaucoup le monde qui l'environne, si j'ai bien compris ce que je sais de vous, Laurence Boissier. Est-ce que la définition des personnages que l'on retrouve dans Rentrée des classes vient aussi de cette observation que vous faites en permanence des gens qui vous entourent ou que vous croisez?
Non, je crois pas. J'ai des inspirations qui sont plutôt littéraires, plutôt dans le monde des histoires pour enfants. Et puis, autrement, bon, moi, je dirais la même chose que ce que j'entends chez tous les romanciers, c'est-à-dire que le personnage prend tout d'un coup une indépendance et puis se développe tout seul.
Malheureusement. C'est donc vrai.
Oui, c'est ça, c'est vrai. On n'a aucun mérite.
Alors ces personnages, je vais quand même les renommer parce qu'il y a Andrew, Elise et les deux enfants, Mathilde et Henri, puis il y a aussi le directeur du musée, Hubert, il y a Madame Ponce, sa secrétaire. Elise est censée travailler avec lui, mais depuis que son mari a disparu, elle est plutôt en stand-by par rapport à son travail dans ce musée des arts de la table, qui présente une collection de porcelaine, d'argenterie, quelque chose de très ennuyeux. Ouais. On pense fortement au musée de l'Ariana à Genève, c'est pas pour l'ennui, mais pour le
pas, oui, non, mais surtout pas. Enfin, ça, c'était vraiment un musée des années 60. Mon père m'amenait toujours au musée de l'horlogerie avec mon frère. C'était un adorable petit musée. Mais pour une petite fille de 8 ans, c'était très ennuyeux.
Très ennuyeux, oui. C'est un monde aussi qui sert à planter un décor. Et ce décor, c'est la ville de Genève en 1970, mm-hmm. avec ce qu'on en a entendu, c'est-à-dire ce qui passait à la télévision, à savoir les mystères de l'Ouest, qu'on a tous regardé à cette époque-là, mm-hmm. au même moment probablement. Les Shadocks, évidemment. Et puis, Genève est elle-même un des personnages de cette ville, avec ses vents qui la traversent, qui viennent de loin, et puis qui s'insinuent jusque dans les appartements. Et c'est aussi le récit d'une époque, donc, ce livre.
Oui, enfin, plutôt une stratégie d'auteur, ça, parce que si je mets cette histoire en 73, les gens vont sur Internet, voient que j'ai la tête que j'ai, et puis ils se disent peut-être que l'auteur a quelque chose à voir avec cette histoire. Et donc, ça crée des liens entre moi, l'auteur vrai, et puis l'histoire qui est racontée. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc, je viens de la performance, je fais volontiers des lectures publiques, et j'aime bien avoir cette présence de l'auteur.
Il y a quand même des références, outre les Mystères de l'Ouest et les Shadocks, qui sont très datées aujourd'hui, qui évidemment nous renvoient immédiatement à cette époque. Les pantalons côtelés orange, par exemple, ce genre de choses-là. Vous faites très attention aux détails, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça.
Oui, alors moi, j'essaye de pallier, non pas pallier, mais effectivement, il n'y a pas d'événement majeur dans ce bouquin, à part celui qui se passe avant le début du livre. Et puis, donc, pour moi, c'est vraiment le travail d'écriture, c'est vraiment d'aller dans les détails, et puis d'essayer de rendre une petite atmosphère un peu crunchy, comme ça, pour que ça continue à étinceler. Hein. Et puis, je me suis dit d'ailleurs que cet événement fondateur qui est la mort du père n'était pas absolument nécessaire. C'est-à-dire que dans un prochain roman, pourquoi pas simplement faire le petit côté crunchy, voilà.
Sans qu'il y ait cet événement.
Sans qu'il y ait d'événement, oui. Mmh, mmh.
Mais il faut quand même un événement pour qu'un roman débute, non ?
Eh ben, enfin, il y a le nouveau roman, et dans le nouveau roman, il ne se passe rien. Si vous lisez un Robe Grière, il ne se passe rien. Attention, j'en ai lu qu'un.
Oui.
Il se passait rien dedans, à part
descriptions,
les mots. Enfin, il y a quelque chose entre les mots, et voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors peut-être ce sera pas. D'ailleurs, je vais pas réécrire un roman. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Pour le moment, je suis en train de travailler sur une performance.
Quel lien faites-vous entre vos différentes activités, Laurence Boissy, entre la performance, la lecture, Bernice Tuberal et ce roman, par exemple?
Alors ça, c'est une bonne question à laquelle je peux pas encore répondre. Je l'ai pas encore lu en public du tout. Ah si, une fois. J'ai lu le premier chapitre en public pour savoir si les gens avaient envie de le lire. Et apparemment, ça a fonctionné. Mais pour moi, les lectures publiques, c'est évidemment des textes courts qui sont calibrés pour l'oral. Et celui-ci, je l'ai pas encore échantillonné là devant un public. Mais pour moi, c'est ça qui est sympathique, c'est la rencontre avec les gens, mais pas seulement dans un festival littéraire où on est derrière une table, c'est aussi chouette, mais ce rapport, enfin voilà, l'échange.
Qu'est-ce que ça fait de lire son roman justement derrière une table face à un public?
Je sais pas, parce que je fais ça qu'une fois, j'étais debout. Le fait de lire des textes qui sont calibrés pour l'oral, ça vous libère du sens, et puis on se concentre sur le son. Alors le son de la voix, et puis à ce moment-là, le son, on le jette sur le public, et puis on regarde ce que le public en fait. Et j'aime beaucoup ça. Je peux pas le faire trop souvent parce que il faut écrire chaque fois des nouveaux textes. J'aime pas relire chaque fois les mêmes textes. Je sais pas comment fait Johnny Hallyday, par exemple. Et pour chaque fois, avec une énergie aussi incroyable, chanter les mêmes chansons, moi, ça me fascine. Mais j'arrive pas, donc j'ai besoin de temps pour écrire, et c'est un long processus.
Bon, il y a des chansons qu'il ne chante plus, il en a chanté plus de 1000, donc il
oui.
Il peut pas toutes les faire en concert.
Oui, j'admire beaucoup cette capacité qu'il a.
Ouais.
Moi, je l'ai pas. Mais l'objectif final, je crois, pour le moment, c'est quand même de pouvoir avoir ce moment face à un public.
Alors, l'idée, il dit souvent, exister, c'est insister.
Oui.
C'est pour ça, sans doute, qu'il insiste sur les chansons.
Oui.
Pour exister.
Oui, 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 j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il y a.
On a évoqué Berne et Stubberal. Oui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce collectif et ce qu'il fait, les voici.
Le français, c'est quand on a quitté l'usine, on a bien passé là,
des centaines ont été payés à la pièce.
Mon mari n'aime pas
les
gros.
Les joueurs, les
gros. Moi, je suis arrivée en septembre. Je gagnais juste 400 francs par mois. Mon patron m'a vendu son Solex. Il m'a pris 5 ans.
Le boulot, c'était l'usine. L'usine de Baninon.
Le plus beau, c'est leur nom.
Nous, on habitait en face de l'usine, dans les immeubles.
Mais c'est compliqué de me souvenir de tous les noms différents. Je les relis chaque matin avant d'aller à l'école. Il y en a des longs.
Maintenant, j'ai le temps de tricoter.
Quand je regarde leur visage, je vois leur nom. Les lettres de leur nom, comme un bonnet sur chaque tête.
Tu te souviens de la chaleur ? On ressortait toute rouge. C'était comme travailler dans un four à vapeur. On voyait tout danser dans la chaleur de la vapeur, tellement il faisait chaud.
Comment il s'appelait déjà le chef de salle ?
Le français, ça leur tombe dessus, d'un coup.
J'ai un blanc.
Un jour, comme ça, d'un coup, il commence à parler.
Il y avait la visite médicale.
Je sais plus. Un an suisse en tout cas.
Mais pas tous en même temps.
Il surveillait avec ses oreilles. C'était fantastique. Des centaines de machines dans une salle. Un raffut, comme tu n'y crois pas. Une seule machine arrêtée, il la repérait.
Mes filles, elles sont venues après. Je les ai à peine reconnues. La grande était tellement grande.
On ne voyait pas les enfants
quand
grandir.
Quand je pense que les gens payent pour aller au hammam. Nous, on était payés pour aller au hammam.
Presque comme une porte.
C'est pas vrai que les banilons ont des trous préparés. Tu nous vois devant nos machines à faire des trous exprès pour vendre plus de banilons ?
On est nombreux dans l'immeuble. En haut, il y a des Hongrois. Elle fait du yogourt.
On vient du même village.
Elle dit que le lait, ici, c'est de l'eau. C'est vrai, c'est de l'eau.
Maintenant, à la place de l'usine, il y a une école d'art.
C'est n'importe quoi.
On l'appelait Super Collant.
C'est joli, là.
Les collants qui n'étaient pas parfaits, on les jetait.
À la gare, tu peux étouffer.
Même nous. On n'avait pas le droit de les prendre. On était fouillés à la sortie, chaque
tu
soir.
Tu peux mourir étouffé.
C'est comme une poésie. Une poésie qui dure toute la journée.
Tu peux te noyer dans la foule.
Si un nouvel élève arrive, le poème s'allonge.
Comment tu dis ?
L'hiver, j'ai deux doigts gelés.
Les hommes étaient quand même
un
peu machos
super
à l'époque.
Il y avait une table de ping-pong pour les employés.
Mon mari travaillait à la gare. C'était une bonne gare de triage.
Moi, je n'ai jamais joué au ping-pong.
Quand ils ne sont pas tranquilles, je me mets au milieu de la classe et je crie leur nom.
Ils pouvaient composer 11 trains côte à côte.
Comment tu voulais jouer au ping-pong ?
Comme des légumes.
J'ai le tournesol de Van Gogh à la
maison. Ma mère aussi, dans le temps. Elle travaillait dans cette
usine. Personne n'a jamais joué au ping-pong.
Quand on a quitté l'usine, on a dû laisser l'appartement.
Ils viennent de partout et ils se posent pour
un bout de vie. Ma petite fille va à l'école ici.
Les nouveaux, j'écris leur nom en grand sur le mur de la
porte. Le plus drôle, c'est que j'en porte encore.
Les collants ?
L'usine de Banilon par le collectif Berne-East-Uberal, rassemblement d'auteurs venus de toute la Suisse ou presque. Je crois qu'il n'y a pas de Tessinois dans le collectif.
Non, il n'y a pas de Tessinois.
On vous a entendu à l'occasion, là, Laurence Boissier, en compagnie d'Anouk Sotana, pardon, Odette Mudry, Carole Varonne, Aude Alibert pour ce court récit, l'usine de Banilon. Là, on est à la limite de la lecture, de la performance, c'est plusieurs voix qui se mélangent, c'est en direct, c'est face à un public.
Non, alors pas du tout, du tout. Alors,
ça, c'est du studio pur.
Ça, c'est mon track que j'ai fait pour le CD. C'est des copines, là, ouais. Que j'ai écrit le texte, j'ai organisé ce chœur pour ce CD qu'on a fait à propos de Renan. Et puis, j'ai pris cette usine de Banilon qui est très importante pour Renan, qui a été remplacée par l'école d'art. Donc ça, c'est mon track à moi. Et puis, sur le CD, chacun a un track.
Une piste.
Une piste.
Un titre.
Un titre. Et puis, voilà. Donc, on a cette espèce de mélange. Donc ça, c'est vraiment, enfin, chacun fait son truc dans Berniste ouais. Duberal. Il n'y a pas tellement, enfin, de temps en temps, il y a un duo ou un trio, mais c'est plus rare. Et puis, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez sorti ce chœur que j'aime beaucoup. Mais sur scène, pour la grande soirée d'inauguration du CD, j'ai pas du tout fait ça parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Donc j'ai lu un texte sur des collants aussi.
Ce qui nous ramène au fond à l'époque, à Genève, à ce que font les gens, quoi, à leur statut social aussi. Mm-hmm. Là, on entendait des voix d'ouvrières qui travaillaient dans cette usine de Banilon. Et la Genève que vous nous décrivez, Laurence Boissier, cette Genève des années 70, c'est une Genève un petit peu engoncée, enfermée dans un genre, dans une sorte de bourgeoisie un petit peu comme ça, statique en quelque sorte. On a le sentiment qu'elle est figée dans son époque et que rien ne doit changer, que tout ce qui est passionnant dans la vie, se situe dans ce fameux musée de la céramique et de l'argenterie.
Oui. Non, bon. Enfin, je l'ai mis à Genève parce que pour moi, la rade de Genève, c'est quand même quelque chose d'assez important, cette eau qui est forcée à... On lui casse les épaules et puis on la force à passer sous le pont. J'ai toujours pensé qu'elle était un peu en colère. Et puis voilà, ça m'impressionne, ce pont du Mont Blanc et le vent, etc. Donc je l'ai mis là parce que ça m'arrangeait de le mettre là. Et puis parce que je connais. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu, l'ambiance n'est pas terrible, je pense que je décris. Mais
non, ça fait pas très envie.
Non, ça fait. Oui, quand même. Il y avait ce dimanche sans voiture qui était plein de bonne énergie. Je me souviens de ce dimanche sans voiture. Oui, c'est vrai que l'ambiance n'est pas terrible. Ma grand-mère a été arrêtée sur le pont du Mont-Blanc parce qu'elle portait pas de collant. Mmh. Et puis ma mère m'a raconté cette histoire 30 millions de fois. Ma mère venait du Pays de Galles. Elle est toujours galloise d'ailleurs. Et puis. J'ai vu Genève par ses yeux. Elle était complètement effondrée quand elle est arrivée. Elle a mis des années à s'adapter. Enfin, et puis pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne énergie. Mais pour elle, c'était compliqué d'être à Genève. Donc j'ai vu Genève par ses yeux. Et puis, probablement, ça ressort dans le bouquin.
Genève par ses yeux, pour décrire ça pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est un aéropage de dames qui préside aux destinées de ce fameux musée de la céramique et de l'argenterie et qui sont elles toutes coincées dans leur petit ailleurs et pour qui rien d'autre ne compte que ce musée. Enfin, on a le sentiment vraiment d'un monde fermé sur lui-même et qui ne voit pas ce qui se passe autour de lui, qui ne voit pas les changements, qui ne voit pas la détresse des autres non plus. Enfin, qui...
Oui, c'est un monde fermé qui disparaît. Et puis je voulais justement décrire tous ces lieux fermés. Il y a aussi la chute dans l'appartement. Mmh. Il y a l'entrée de l'immeuble. Tous ces lieux où comme ça qui sont importants pour moi pour contraster avec cette espèce de grand large inquiétant de la rade. Voilà. Donc je les utilise comme ça pour contraster. À part ça, le fait que ce soit un musée de la porcelaine et de l'argenterie, je sais pas comment ça m'est venu. C'est, oui, à cause du musée de l'horlogerie, puis un petit peu du musée Bor, mais qui sont des musées charmants, à part ça.
On ne dira pas le contraire ici, évidemment. Oui. Est-ce que le récit s'articule autour de Mathilde et de Hubert? Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Mathilde, c'est la petite fille. Et Hubert, c'est le directeur de ce fameux musée de l'argenterie et de la céramique. J'ai le sentiment que le récit s'articule toujours autour de la destinée de ces deux personnages.
Oui, aussi parce que ce sont eux qui ont des problèmes avec leur volume et l'espace qui les entoure. Hubert, il est très maladroit avec son corps.
Il est trop grand.
Ouais, puis il sait pas jamais quoi faire avec ses mains. Et puis, voilà, il prend beaucoup de place. Il brasse beaucoup d'air. Et puis, Mathilde s'enferme dans son armoire. Donc, j'avais envie de contraster ces deux vides. Voilà.
Vous aviez le sentiment que vous preniez trop de place ou que vous n'en aviez pas assez à l'âge de Mathilde?
Moi, je sais pas. Je me suis effectivement un peu retirée du monde là. Donc, je prenais pas beaucoup de place. J'avais pas beaucoup d'informations et donc, mais je me suis pas retirée dans mon armoire. Je me suis retirée. Point final, c'est-à-dire je me suis retirée en valeur absolue.
Oui.
J'étais jamais là, même quand j'étais à l'école ou dans la rue, j'étais jamais vraiment là.
Mathilde a une passion pour Vasarely, pour les mathématiques d'une façon générale, c'est votre cas aussi?
J'ai pas une passion pour Vasarely, mais j'aimais beaucoup Vasarely, oui. Après, il y a Rothko qui a suivi Vasarely, parce qu'il a moins le syndrome de la bordure.
C'est quoi le syndrome de la bordure?
C'est tout faire joli, bien, les bords, tout bien.
Rothko était un petit peu plus punk, il faut bien le dire.
Si ouais, il dépassait un peu.
Voilà, ouais, c'est ça, il débordait un peu en tout dans sa vie. Il y a un autre personnage qui est très amusant, même s'il connaît un destin tragique, mais ça ira mieux pour lui, même si je ne veux rien révéler de ce roman, c'est Bourriquet.
Non, quelle horreur ce nom. C'est affreux comment ils les ont torturés ces personnages en leur donnant des noms.
Bourriquet, c'est pas très sympa.
Comment est-ce qu'on peut donner,
je sais pas,
même à une créature qui a pas d'existence propre, comment on peut donner un nom pareil? Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait avec le français.
Ouais, c'est difficile à traduire quand même.
Oui.
Ouais. Alors, oui. c'est le doudou de Mathilde.
Oui, le doudou de Mathilde, oui, qui descend bien bas. Et que j'ai là, chez moi, que toujours là. Il n'a pas sa queue, mais il est toujours là, propre. Et il y a une photo de lui qui est exposée dans une librairie à côté de mon livre. C'est mignon.
Oui, c'est mignon.
Ouais.
Donc, c'est un personnage... Enfin, il existe vraiment, en fait.
Oui, il existe.
Ça. Ouais. Donc, c'est un personnage que l'on trouve dans, chez Winnie l'ourson. C'est un des amis de Winnie.
Oui.
Vous avez un lien fort avec cette littérature britannique, appelons-la comme ça au sens large.
Oui, très fort. Ben, ma mère nous racontait toutes ces histoires. Et puis, elle dessinait des immenses fresques sur les murs. Elle a dessiné des portraits sur les murs avec les cadres et tout ça parce qu'elle pensait que ce serait dangereux pour nous d'avoir des tableaux suspendus au mur au-dessus du lit. Alors elle dessinait les personnages et puis elle dessinait les cadres autour.
Et c'est du trompe-l'œil, quoi.
Et vraiment, artistique, des tendances artistiques. Et puis, elle nous lisait toutes ces histoires. Le J, d'ailleurs, le personnage du J, ça vient de Alice au Pays des Merveilles. C'est le Jabberwocky que moi, j'ai contracté en J.
Ouais.
Voilà, donc effectivement, beaucoup de ça.
C'est le dragon qui parle toujours de dos, en tournant la tête vers celui qui l'interpelle.
Ouais.
C'est assez autobiographique, au fond.
Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Ouais.
Mais ma mère n'est pas comme...
Vous avez l'air surprise de ce constat.
Ma mère n'est pas... Non, mais parce que j'ai vraiment fait aussi un effort pour mettre de la distance artistique, comme on dit.
Ouais.
Et voilà, j'espère quand même y être arrivée, que c'est pas trop lourd, justement.
Non, alors c'est pas lourd du tout. Ça démarre sur un deuil, mais c'est un roman qui, malgré les apparences du début, est extrêmement léger et distancié. Notre invité est Laurence Boissier, nous parlons de Rentrée des classes, c'est publié chez Art et Fiction. Le journal, c'est dans quelques minutes, on va se tourner du côté de Carousel.
Sur la première, c'est Vertigo jusqu'à 18h.
Laurence Boissier, on a évoqué avec vous pas mal de choses de ce roman. On a évoqué votre travail avec le collectif Bern East Überall. Vous avez dit tout à l'heure que la bande dessinée vous intéresserait. À quoi ne vous intéressez-vous pas lorsqu'il s'agit d'écrire, de raconter des histoires?
Il n'y a pas tellement de formules qui m'intéressent pas. Le style épistolaire m'intéresse spécialement parce qu'on peut... On peut passer par toutes les personnes, on peut passer du tu au je, au nous, au il, de manière très fluide et très naturelle. Donc, le style épistolaire, oui. D'ailleurs, j'ai une histoire de cahier des charges, mon livre précédent, qui est dans le style épistolaire. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Non, explorer, jouer, j'aime jouer. Avec toutes ces possibilités. La chorégraphie m'intéresse aussi.
Alors, on va vous présenter Thierry Sartoretti.
De danse avant.
Oui,
ça m'intéresse beaucoup.
Quand on explore, c'est pour trouver quelque chose ou c'est juste pour le plaisir d'explorer et de voir ce qu'on trouve ou on part avec une idée en tête?
Moi, je pars avec une idée en tête et puis ensuite, je regarde comment c'est possible de l'exprimer de la meilleure des manières possibles. Là, par exemple, je suis partie sur les Alpes. Et j'ai pas mal changé de support avant de partir sur la performance. Donc c'est des années de
recherche.
Ouais, de reculons, on va dire.
Ouais, ouais.
D'avancer et de reculer.
Vous avez eu plusieurs vies, on peut le dire, ça?
Oui, on peut le dire.
Parce que vous avez fait tellement de choses. Enfin, votre CV est long comme un bras ou comme un jour sans pain, comme on disait il y a fort longtemps. Tout ça pour dire que je ne retrouve plus la feuille sur laquelle j'avais effectivement noté tout ce que vous aviez fait, mais elle doit être à peu près par là ou là-dessous. Non, elle est là, tiens, la voici.
Oh là là, mais...
Non, mais il y a tout là.
Non, mais, il ne faut pas aller trop loin.
Non, je ne vais pas tout dire. Mais par exemple, en 2009, vous aviez déjà reçu un prix, c'est le prix Schudergans, qui est un prix littéraire.
Merveilleux prix.
Qui est un prix très important.
Fantastique.
Décerné tous les deux ans.
Oui.
Et pas n'importe qui, donc.
Oui.
Bourse pour nouvel auteur du canton de Genève en 2009, diplôme de la Haute École d'Art et de Design de Genève, ça c'était également en 2009, une licence en lettres en 2004, un master en sciences à l'Université Collège à Londres en 89, les arts déco à Genève en 88. Vous êtes une bête de concours aussi, enfin, vous avez besoin comme ça d'accumuler de la connaissance en permanence pour vous lancer dans un projet, ou c'est juste ça vous plaît?
Non, il y a quelques erreurs de casting quand même là-dedans.
Lesquelles? Faites-nous rire.
Ben, les arts déco, par exemple.
Pourquoi ?
Ça, c'était pour devenir architecte d'intérieur.
Mais vous l'avez été.
J'étais une catastrophe. J'étais capable de construire un appartement duplex sans les escaliers.
Ah.
Et puis, après, on m'a mis à faire du design de salle de bain et je suis restée là quelques temps, puis après, je suis partie. Donc, ce n'était pas une réussite, voilà.
Et vous avez travaillé aussi pour le canton de Genève ?
Oui, alors justement, on parlait d'énergie,
oui.
Ben, je faisais ça, je faisais de la communication sur l'énergie, voilà, c'est important, il faut prendre... Maintenant, les gens ont compris, mais en partie grâce à moi peut-être.
Qu'il faut changer nos simples vitrages et mettre des nouveaux vitrages, ce genre de choses.
Mais là, j'ai commencé à comprendre que tous les postes que j'ai tenus, eh bien, ce que j'aimais le plus faire, c'était d'écrire, justement. Alors, si on me demandait d'écrire un discours, j'étais tout de suite là. Quand j'étais au CICR, c'était les rapports de fin de mission qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Donc, après, j'ai commencé à comprendre ces choses-là, mais ça m'a mis du temps.
Lynn Lévy, une question pour vous.
Est-ce qu'avec ce CV-là d'architecte d'intérieur, même de designer, est-ce qu'il y a un côté chez vous d'envisager l'écriture comme un artisan, d'architecturer un texte, de revenir à la tâche, de travailler la phrase comme un artisan peut travailler son métier ?
Bon, moi, quand on parle d'architecture, ça m'évoque les pires cauchemars d'échecs cuisants. Voilà.
Mais où est l'escalier ?
Donc, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Je peux pas faire de lien. J'essaye de justement qu'on en parle le moins possible. Je suis désolée.
Non, mais c'est vrai, il y a les écrivains qu'on appelle les écrivains du bâtiment, comme Hemingway ou je sais pas qui. Enfin voilà, des gens qui faisaient des plans sur les murs avec les personnages, les moments clés, les situations, les lieux pour pas se perdre dans le roman, pour savoir exactement où ils en étaient, et puis peut-être même envisager une fin plausible au roman. Vous êtes quelqu'un qui fait des plans ?
Non, pas du tout. Alors, pas du tout. J'ai jamais fait de plan ni à l'école ni autre part. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire. C'est que le bouquin est toujours un objet. Jusque maintenant, ça a été un objet. Avant, au Beaux-Arts, je faisais de la micro-édition. Il y avait tout un travail autour de l'objet. Donc voilà, le visuel est
très
quand
important.
Même important. Oui.
Ouais. Ce qui est le cas chez RF Fiction, c'est un éditeur qui soigne ses couvertures, la matière, le papier, le carton du livre. Il y a un travail.
Oui, il y a un vrai travail. Dans cette collection, mais aussi dans les livres... Dans les livres, les vrais livres d'artistes qu'il sort, c'est vraiment incroyable les réflexions qui sont menées avant de pouvoir faire l'objet lui-même, sortir l'objet.
Et puis, vous êtes, lorsque vous travaillez sur ce roman, d'après ce que j'ai compris, vous êtes aussi très en lien avec votre éditeur avec lequel vous retravaillez beaucoup.
Oui.
Parce que vous réécrivez beaucoup.
Oui, ça, j'aime bien justement être avec lui parce que. Il n'hésite pas à me faire retravailler. Et puis moi, je suis demandeuse. Bon, il y a certains auteurs qui n'aiment pas. Mais moi, j'aime bien. Ça me fait avancer.
Mais on revient à la question de Lynn Lévy. C'était au fond remettre l'ouvrage sur le métier. C'est-à-dire le côté artisan, c'est aussi ciseler la phrase, retravailler
les mots. Oui, c'est vrai. Je retravaille beaucoup. Ouais. Et c'est une angoisse pour moi de devoir rendre le manuscrit final.
C'était la même chose pour les rapports du CICR. Il les attendait combien de temps?
Non, je crois pas. C'était pas aussi anxiogène, mais c'est vrai que là, le prix suisse de littérature m'a donné l'occasion de corriger deux livres qui étaient déjà sortis. Ça, c'est fantastique. Merveilleux.
Et donc, de reprendre tout ça et de le rééditer.
Ouais.
Vous restez avec nous, Laurence Boissy. On va évoquer un sujet qui va vous intéresser, je le sais. On va parler de design avec Lynn.
Le design dans Vertigo.
Ça va commencer jeudi soir, c'est à Genève, dans le fameux pavillon Cycli. Ça s'appelle les Design Days, tout simplement, Lynn. C'est la 9e édition de cet événement qui mélange mode, design. Ça va durer jusqu'à dimanche. Il y a alors des expos, des conférences, des ateliers, des marchés. On peut acheter évidemment aussi des choses, c'est quand même un petit peu le but. Mais c'était pas assez pour vous, Lynn. Vous allez beaucoup plus loin, puisque ces Design Days vous ont inspiré une question de politique étrangère.
Imaginez Pierre-Philippe, un intérieur blond, grand, nordique, mais pas Ikea.
Ouais.
Pensez à quelque chose de minimaliste, mais pas austère. Une maison aérée avec du bois doux, des meubles joyeux, mais fonctionnels. Oui, Pierre-Philippe, dans l'inconscient collectif, le bonheur intérieur est designé par des Scandinaves. Et ça a l'air de rien, mais sur l'échiquier international et même en matière diplomatique, ça vous pose une réputation. Je vous donne un exemple. Prenez Kennedy, lors du premier débat présidentiel télévisé contre le président Nixon sur la chaîne CBS. Kennedy avait exigé de pouvoir s'asseoir sur une chaise danoise, parce que le pauvre, il avait mal au dos. Et en l'occurrence, c'était la Round Chair de Hans Wegner. Et cette pièce design a donc fait le tour du monde et placer encore plus, s'il le fallait, les pays du Nord, les pays scandinaves comme les rois du design.
Alors, et la Suisse dans tout ça?
Ben justement, Pierre-Philippe, j'ai voulu savoir si le design suisse, si notre design pouvait aussi être un outil diplomatique. Évidemment, il y a le couteau suisse de Victor Inox, les horloges mythiques des CFF, qui pour nous, pendulaires, ouais, sont évidemment essentielles. Mais est-ce que réellement nos prouesses helvétiques et design sont un atout pour la réputation de notre pays ou même en matière de politique étrangère? J'ai donc demandé à Nicolas Bidot, qui est le chef de présence suisse, organisme qui travaille sur l'image de la Suisse à l'étranger. Je lui ai demandé si notre savoir-faire en matière de design était l'un de ses outils à l'étranger.
Bon, d'une manière générale, j'aimerais bien qu'il le soit plus, parce que je pense que les Suisses s'imaginent que le design suisse est extrêmement connu à l'étranger. C'est pas le cas. Il y a certains objets iconiques qui sont connus. Les montres, évidemment, ça paraît clair à tout le monde, mais les montres, le couteau suisse, c'est des objets, en quelque sorte, du design suisse, mais c'est un peu vieux jeu. On n'a pas réinventé les montres, elles ont toujours un peu le même design, le couteau suisse aussi. Donc en fait, le truc high-tech, c'est assez peu ça. Il y a quelques exceptions, je pense par exemple à Freitag, hein. Si on posait la question aux Japonais, ils ont tous des sacs Freitag, ils savent que c'est suisse. Il y a quelques exceptions, mais d'une manière générale, au fond, on est beaucoup dans le design industriel, et ce qu'on design dans le domaine industriel est peu perçu comme suisse. Donc oui, j'essaie de travailler, mais c'est pas franchement, c'est pas un blockbuster, contrairement au chocolat, aux montres, comme je l'ai dit, et puis au fromage. Donc le design suisse ne s'est pas encore fait sa place à l'étranger. Donc on a besoin du design pour être un peu plus high-tech que Heidi, pour faire un jeu de mots connu.
Et pourtant, les industries de la création, et par lesquelles j'entends évidemment le design, mais aussi la musique, la mode, la pub, etc., l'architecture, ces industries-là sont des secteurs où la croissance est parmi la plus rapide au XXIe siècle. Comment ça se fait qu'en Suisse, on semble être à la traîne en la matière?
Vous avez totalement raison, ça marche très fort, mais le problème, c'est que des nations sont accaparées en quelque sorte ces clichés-là. Lorsque vous pensez design, vous pensez au Danemark. Lorsque vous pensez fashion, vous pensez à l'Italie du Nord. Donc c'est très difficile de battre ces pays qui sont positionnés sur ces secteurs-là. En plus de ça, la plupart du temps, nos designers travaillent pour d'autres marques. Donc on est un peu victime finalement d'un domaine dans lequel on range la Suisse et qui n'est pas celui qui est lié automatiquement au design.
Et pourtant, des foires comme Art Basel qui ont lieu chaque année à Bâle début juin, mais qui sont devenues une marque avec des Art Basel Miami, Hong Kong, c'est des foires d'art certes, mais évidemment le design est totalement partie prenante de ces foires-là. Pourtant, ce sont des marques qui sont connues à l'international.
Art Basel, c'est vrai que c'est un écrin extrêmement connu, mais les galeries qui font Art Basel sont 90% étrangères. Et c'est un peu ça la Suisse, on travaille dans des écrins qu'on offre aux autres. Un exemple qu'on essaie toujours de mettre en avant, c'est l'Helvetica, hein, ces fameuses polices qu'on retrouve sur tous les ordinateurs du monde. Elle s'appelle Helvetica et pas Suisse, et au fond personne ne sait que cette police a été inventée par des graphistes suisses. Donc on est un peu victime de ces bosseurs de l'ombre, hein, bien suisses, discrets, mais la discrétion ça paye pas en termes d'image malheureusement. Je pense qu'en communication, il faudrait faire un petit peu plus pour qu'on apparaisse effectivement comme une notion du design. C'est assez énervant que les Danois, qui ont presque le même drapeau que nous piquent très, trop facilement en quelque sorte cette image de pays du design.
Donc c'est un problème de communication avant tout?
C'est un problème de communication avant tout parce qu'on a peu d'objets. Les Danois, s'ils sont connus, c'est parce qu'ils sont très forts dans l'architecture d'intérieur. Et ça, c'est des objets. On aimerait avoir son salon design danois. On n'aimerait pas avoir son salon design suisse. Le jour où on y arrivera, et on peut le faire parce qu'on a ces producteurs-là, mais peut-être qu'on ne met pas assez en avant cette marque de design suisse. Les objets qu'on promeut à l'étranger qui sont relativement inattendus, au-delà des montres, c'est par exemple, vous savez, ce fameux pelle-patate très efficace qui a été inventé par des Suisses. Personne ne sait qu'il a été inventé par des Suisses. Il est très efficace. Il y a aussi des casseroles magnifiques. Il y a aussi les gourdes SIG, par exemple. On essaye de faire connaître davantage ces produits-là comme des produits suisses. Et par exemple, dans les House of Switzerland, dans les maisons près des Jeux Olympiques ou lors des pavillons dans les expos universels, on va mettre en avant le Made in Switzerland.
J'ai sous les yeux, Nicolas Bidot, un article de CNN au titre éloquent « Pourquoi le design est devenu aujourd'hui la meilleure arme de soft power au monde ?» Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas la meilleure arme de soft power. Je dirais que c'est une des armes les plus intéressantes parce que les gens sont amoureux des beaux designs. Vous avez qu'à voir ce qui a fait le succès de la Suisse, la montre. Les gens sont amoureux de leur montre, s'identifient à leur montre. Quand vous avez un bel objet, vous vous identifiez auprès de cet objet. Après, c'est juste, mais après, il faut être capable de, immédiatement dans la tête des gens, être capable de produire un lien entre l'objet et l'origine nationale dans lequel il vient. Si vous me posez la question de savoir quel est le meilleur argument de soft power aujourd'hui, je vous dirais que c'est l'éthique. Les pays qui sont capables d'être vendus comme des pays éthiques, qui pensent au développement durable et au climat, ça, c'est des pays qui se vendent aujourd'hui. C'est pas facile. Le design, on va dire, juste après peut-être l'éthique qui reste le soft power le plus fort du monde.
Et ça s'appelle du sound design, ce qu'on entend.
Exactement,
voilà.
C'est très beau. C'était en même.
Nicolas Bidot avec vous, Lynn Lévy. Alors si je comprends bien, il faut envahir le Danemark, c'est ça
Écoutez, oui, ah, plein de grands blancs. À nous les grands blancs.
Voilà, merci. Je rappelle que les Design Days, ça commence jeudi soir et ça durera jusqu'à dimanche. Et ça se tiendra à Genève, au fameux pavillon Cycli. Vous êtes très, très design, Laurence Boissier. C'est quelque chose qui vous intéresse qui vous passionne, vous êtes très attentive aux objets de votre quotidien.
Je suis attentive aux matériaux, j'aime bien l'idée d'avoir des matériaux qui viennent de chez moi, par exemple. Dans les Alpes, on a des espèces pionnières, et puis j'aurais bien vu quelque chose en espèces pionnières, comme par exemple une table pour mettre dans mon salon, ça m'intéresserait. Non, je ne suis pas design, je m'habille un peu comme ça vient, moi-même. J'ai essayé de me coiffer pour venir ici, mais j'ai fait
radio,
un côté réussi et pas l'autre.
Moi, je fais jamais les deux, donc c'est pas très grave. C'est de la radio, c'est absolument aucune importance. Franchement, c'est pas
mais
très grave.
Mais heureusement, j'ai le casque alors.
Voilà, ça maintient un peu les cheveux. Ouais, je fais la même chose, hein, au fond. Ouais, on a tous les mêmes problèmes. En fait. Je comprends bien. Non, mais si on parle d'objets et de design, c'est que il y a toute une partie du livre qui a trait aux objets, puisqu'il y a ce fameux musée de l'argenterie et des arts de la table.
Oui.
Donc on parle de matériaux, on parle de porcelaine. Vraiment, il y a quelque chose. Et il y a toute une scène dans le musée où il est question, en fait, de moderniser le musée, de le rendre plus attractif. Et ça passe par quoi? Ça passe par la performance, par des objets plus gros, par montrer de quoi est fait la matière. À partir de quelle matière on fait ces porcelaines, par exemple.
Oui, c'est ça. Mettre une montagne de kaolin au milieu d'une salle. Bon, c'est juste un truc que j'aurais adoré faire si on m'en avait donné l'occasion. Et puis, c'est comme ça qu'on apprenait à réfléchir aux beaux-arts. Quand je suis arrivée aux beaux-arts, moi, je comprenais rien du tout. Et puis, j'ai essayé de faire un travail sur le sucre, parce que je pensais que le sucre, c'était pas bien. Et le premier travail qu'on nous avait demandé, c'est parler de quelque chose que vous aimez pas du tout. Et alors, je me suis attelée au sucre. J'ai fait une installation avec des Playmobil qui portaient des panneaux anti-sucre. C'était tout à fait nul. Et mon professeur m'a dit, mais tu vois, tu aurais dû installer une montagne de sucre dans le hall d'entrée de l'école. Là, on aurait compris. Et là, ça a fait tilt. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait quand même quelque chose. Il fallait plonger dans les concepts. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça, ça vient de là. Le kaolin, la montagne
du kaolin,
ça vient de là.
Mais vous-même, vous travaillez certains matériaux. Enfin, je veux dire, vous faites de la sculpture, par exemple, ce genre de choses?
Non. Si je devais faire quelque chose, ce serait du tricot.
Qui est aussi très présent dans le livre.
Oui. Ouais. Et la four de biberon, c'est la réalité du terrain. C'est ce qui.
C'est effectivement.
Oui.
Mathilde, quel âge elle a? 8 ans.
Elle a 10 ans dans le livre.
Dans le livre, ouais. Elle doit tricoter une fourre de biberon et c'est une catastrophe. Et puis un jour, elle découvre qu'une de ses nouvelles camarades de classe porte un pull magnifique avec un motif qui lui rappelle Vasarely, un motif très géométrique, comme ça, dans lequel on a l'impression de pouvoir plonger. Ouais. Et sa camarade de classe lui dit, mais c'est moi qui l'ai fait, on peut faire ça aussi.
On peut faire des motifs, géométriques. Alors là, elle, tout de suite, ça l'électrise, elle a envie de tricoter.
Mais ça dit aussi qu'à l'école, on n'apprend pas forcément, c'est pas qu'on n'apprend pas forcément les bonnes choses, mais qu'on ne nous incite pas à la créativité avec ce que l'on nous propose.
Non, pas toujours. Bon, ça va dépendre des professeurs, mais c'est vrai que notre professeur de couture n'était pas vraiment. Elle se préoccupait de si on allait faire une bonne. Épouse.
Ménagère.
Ouais. Épouse, oui.
Oui. Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est un cheval.
Oui, cheval, oui.
Un cheval qui meurt.
J'ai mis ce cheval-là parce que j'aime le nom Alpaga. Et je me disais, à qui je peux donner ce nom Alpaga? Et je l'ai donné au cheval.
Ouais.
Et après, ça s'est développé, toute cette histoire de cheval s'est développée à partir de là. J'ai essayé de le coincer quelque part. Je devrais pas dire ces petites recettes. Mais j'ai essayé de le coincer et j'ai finalement trouvé ça. Puis ça s'est développé comme ça. Et puis ça marche très bien parce qu'il y a avec le galop, on a des grands espaces comme ça qui peuvent être intéressants dans le livre.
Oui, et puis ça permet aussi de développer des personnages assez hors normes, notamment la femme de Hubert, le directeur du musée, qui est désespéré par la mort de son cheval et puis qui va finir par vivre dans un endroit qui normalement n'est pas prévu pour elle.
Non, c'est vrai, oui. Elle en a assez, elle fait péter ses structures.
Oui.
Oui. Elle a, voilà. Après, ça le met dans tous ses états, enfin, il comprend pas. Il comprend jamais rien.
En fait, il comprend jamais rien, oui.
Il comprend jamais rien. Mmh. Mais ça veut, c'est pas un statement sur les hommes, en général. Mmh.
Je me voulais rassurer. Ce roman s'appelle Rentrée des classes. Il est signé de notre invité, Laurence Boissier. Merci d'être venu nous voir.
Merci de m'avoir accueilli.
À très bientôt. C'est publié, j'ai oublié de le rappeler, chez Art et Fiction.